savoir plus, votre rendez-vous d'information avec le soutien du Conseil départemental du Pas-de-Calais, chaque jeudi de 11h à midi sur Radio Plus.
Il faut savoir.
Bonjour à toutes et à tous, et cette semaine, nous nous intéressons d'en savoir plus à nouveau aux violences conjugales, avec la suite de notre entretien en compagnie de Laurent Lyotard, responsable de Systémia, qui est à la fois un centre thérapeutique et un lieu ressource consacré à ce domaine et situé à Lens. Dans cet entretien qui au départ a duré près de 2 heures et dont nous vous avons diffusé la première partie la semaine dernière, nous abordons la question des féminicides, de la manière dont Systémia travaille avec les personnes qu'elle suit sur ces questions, mais aussi la question du Grenelle des violences conjugales qui a été mise en place par le gouvernement au mois de septembre et dont les conclusions doivent être rendues le 25 novembre prochain. Un entretien dense que je vous invite à écouter dès à présent sur Radio Plus.
121 féminicides ont été comptabilisés l'an dernier, dont 4 dans le Nord et 3 dans le Pas-de-Calais. On en dénombre 112 depuis le début de l'année. Comment analysez-vous ces chiffres ?
Ça, c'est l'horreur des violences au sein du couple, des violences conjugales, des conflits violents. C'est que finalement, des femmes, ils laissent leur vie, mais également quelques hommes et également des enfants. Moi, je milite pour qu'on cite aussi, parce que je pense qu'on est dans une société où la vie humaine est sacralisée, c'est important. Et du coup, je nous encourage à englober l'ensemble de ces enfants et également de ces hommes. C'est malheureusement une réalité, c'est une réalité qui perdure dans le temps. Il faut savoir que ces chiffres-là oscillent chaque année, bien évidemment, mais qu'ils sont malheureusement stables, c'est-à-dire qu'on n'arrive toujours pas, malgré tout ce qu'on fait, à faire baisser ces morts. Je ne vous parle pas des gens qui sont blessés, des gens qui sont traumatisés, des gens qui vont perdre pied dans leur vie, c'est-à-dire finir à la rue, finir en hôpital psychiatrique, qui ne sont pas comptabilisés, ou des gens qui vont se laisser mourir et qui ne seront pas comptabilisés. Parce que vous comprenez, là on ne compte que les gens où les faits sont avérés, on ne regarde pas dans le temps, on compte chaque année. Mais je vous assure qu'il y a malheureusement des situations de violence au sein du couple qui créent des déprimes, qui créent des suicides qu'on ne verra jamais apparaître parce qu'ils sont éloignés dans le temps. C'est un chiffre terriblement violent, qui est bien trop élevé parce qu'une vie c'est sacré. C'est malheureusement un chiffre stable, il faut savoir que c'est pas une découverte. Si vous avez la patience d'aller regarder les statistiques des chiffres précédents, parce que la police fait un merveilleux travail, ils sont débordés de boulot, mais on leur demande en plus de tout comptabiliser, donc bravo à eux. Et si on consulte les chiffres police et gendarmerie sur ces histoires-là, vous verrez que malheureusement c'est ancien. C'est un drame, c'est vraiment un drame de la société, c'est un drame qui n'arrive pas à être dépassé, puisque ça fait maintenant 19 ans que l'appareil législatif est renforcé sur renforcé, qu'on met de plus en plus de lois, qu'on pénalise de plus en plus fort. Enfin, on a vraiment une gradation et c'est important, puisqu'il faut réagir. Néanmoins, ça n'altère pas ce chiffre-là. Ça, c'est impressionnant. Il est probable qu'on se retrouve dans la situation que moi j'ai vécue, c'est qu'il y a quelque chose qui nous échappe, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Moi, je pense qu'il ne faut pas être fataliste. Je pense qu'il faut continuer à réfléchir à ça. Je pense que c'est un sujet trop grave pour dire c'est tout, on n'arrivera pas à baisser ce chiffre, ou alors continuons à faire finalement plus de législatif mais sans regarder ailleurs. Je milite également pour que on encourage nos chercheurs à se positionner là-dessus. Moi, j'ai eu une doctorante ici, elle est partie au Canada. C'est-à-dire que c'est une dame qui travaillait sur les violences conjugales, qui a amené de la réflexion, qui a passé plus d'une année à Systémia à essayer de nous apporter du contenu. Nous n'avons malheureusement pas réussi à garder cette jeune professionnelle qui était dans la recherche, qui a travaillé, qui a fait énormément de choses. Elle est partie travailler chez nos cousins adorés, mais néanmoins, qu'est-ce qu'attend la France pour finalement s'autoriser à faire des recherches réelles là-dessus? Et des recherches pas que sur le genre, ça c'est important, pas que sur la différence homme-femme, mais également sur c'est quoi ce lien.
Chaque jeudi matin, à partir de 9h, Radio Plus vous propose des magazines et reportages. Vous faites partie d'une association ? Venez partager vos activités. N'hésitez pas à nous contacter au 09 52 22 22 07 ou sur contact@radioplus.fr.
Comment se passe la prise en charge chez vous à Système ? Il y a des personnes qui subissent ou qui exercent ces violences conjugales ?
Alors ça, c'est ça l'expérience. C'est-à-dire que finalement, ça s'appuie sur... on a démarré en 2004 le questionnement, hein, comme je vous avais expliqué précédemment. Et depuis 2004, là on est en 2019, on continue à se questionner. Donc on fait venir des professionnels, vous voyez, des gens qui ont de l'expérience comme Monsieur Brugno, des doctorants, des psychologues, des... j'essaye de garder un réseau avec des chercheurs, je suis en lien avec des professionnels qui sont de tous horizons, que ce soit à l'étranger, alors ça peut être l'étranger proche, la Belgique, des professionnels en Suisse qui partagent des expériences, mais aussi en France, je suis en lien avec des gens qui travaillent sur Marseille, qui travaillent sur Lyon, qui travaillent à plein d'autres endroits, souvent raccrochés à une grande ville parce que c'est là qu'il y a la densité de population, avec des gens qui sont dans la recherche, qui publient, mais des gens aussi qui sont dans l'expérimentation, qui essayent des dispositifs. On garde aussi une espèce de maillage à ce niveau-là. Ça, c'est quelque chose qui finalement va nous aider énormément et ça va permettre de nous faire réfléchir à comment on travaille. Donc, on est tout le temps en perpétuelle évolution. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que comme on est dans une histoire qui est très récente, on avance aussi on avance à tâtons. Moi, je dis toujours un peu rapidement, c'est pour créer une métaphore, mais... Finalement, on va dire que la médecine existe depuis des milliers d'années et on sait malheureusement que la médecine ne guérit pas tout et on sait que la médecine découvre encore aujourd'hui plein de choses, etc. Il faut comprendre que la psychologie a un peu plus d'une centaine d'années, alors c'est déjà vertigineux. Le travail social a un peu plus d'une 70-80 années, je fais des approximations mais on est là-dessus. Et puis le travail sur les violences conjugales, ça a eu le mérite d'éclore autour de la violence faite aux femmes, puisque c'est les mouvements féministes qui ont eu le courage de faire avancer ce sujet. Après, la recherche fondamentale là-dessus, elle est très récente. Elle est d'après 2000. Et puis, il y a la recherche sur le genre qui est très important, mais il y aura aussi à comprendre c'est quoi la violence dans une société, quel sens ça, etc. Donc, il y a des chercheurs en histoire qui travaillent là-dessus. Il y a aussi l'anthropologie, comment fonctionnent nos micro-sociétés, ces couples qui sont des lieux de fabrication des enfants, vous savez, dans ce mouvement sociétal, comment ça se passe ailleurs et est-ce que ça crée des violences pareilles, différentes, etc. Et ça veut dire quoi être amoureux, on sait toujours pas, c'est quelque chose qui est peu étudié. Ça veut dire quoi le fait que ça fluctue dans le temps, et c'est quoi un couple, comment ça fonctionne, même ça c'est des choses qui sont très vagues, etc., etc. Donc, et aussi devenir parent. Ça veut dire quoi transmettre finalement la manière d'être amoureux, puisque nous ici on a des situations où ces femmes et ces hommes, elles ont eu des histoires de violence conjugale chez leurs parents et que tout d'un coup ça vient se retravailler, se réexprimer à leur niveau. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut pas dire que si j'ai eu des parents violents, je serai violent ou violenté. Pas du tout, hein, attention, hein, on n'est pas on a très bien compris que ça veut pas dire ça. Mais il y a quelque chose qui interroge. Vivre de la violence, ça ne vaccine pas de retrouver de la violence, forcément, etc., 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 comme on va retrouver dans les addictions, comme on va retrouver, vous voyez, c'est tous ces fonctionnements humains, et là, donc ça nous aide, ça nous nourrit, on a conscience de nos limites, ça c'est important, il est hors de question de donner des leçons aux gens. Nous, on ne donne pas de leçons, ni à ceux qui pensent différemment de nous. On est d'accord pour qu'il y ait des mouvements différents. On essaye de travailler le plus possible ensemble. Moi, j'ai aucun souci sur des gens qui penseraient autrement. Je ne crois pas à une vérité absolue. Je pense qu'il y a des réalités. Je pense qu'on est vraiment dans une part d'inconnu telle qu'il faut s'accorder pour avancer chacun, et que ce que l'autre va découvrir, même si c'est pas ce que moi je travaille, ça peut m'enrichir, etc. Donc ça, c'est une position qui est importante et qui nous tient à cœur, nous. Et du coup, c'est comme ça qu'on procède. Donc longtemps, on a réfléchi à comment travailler. Par exemple, au début, on travaillait au sein du centre d'hébergement. C'est-à-dire qu'on recevait des dames avec des enfants, puis on s'est dit, ben voilà, il faut les aider à continuer à se séparer, etc. Ce qu'on fait encore avec des situations, parce que c'est encore valable dans certaines situations, mais très vite, on s'est posé des questions. Du coup, nous, on s'est dit, ben, il faudrait qu'on externalise ça. Donc, on a créé Systémia, on s'est dit, c'est un lieu de vie, l'hébergement, est-ce qu'on y ferait... finalement, est-ce qu'à la maison, on fait tout ? On fait pas tout à la maison, on va dans des hôpitaux se faire opérer, on va, des fois le médecin vient à domicile, mais on va aussi le rencontrer, on fait des démarches à l'extérieur parce que la maison c'est un lieu de vie, on peut pas tout y travailler, on peut pas se mettre en émotion à la maison et puis voir le professionnel partir et puis se dire bah voilà, maintenant je me retrouve toute seule le soir, je me sens pas bien et je fais quoi. Donc on a décidé de créer des lieux où les personnes elles viennent déposer leurs souffrances psychiques, leur mal-être. C'est un peu comme ça qu'on a construit Systémia et très vite on a été débordé de plein de demandes et c'est là où on a commencé à tâtonner, à construire. Donc par exemple, on a compris qu'il fallait pas recevoir d'emblée les enfants. Et ça, on l'a appris grâce à ces femmes et ces hommes qui nous ont aidés, voilà. Pas parce qu'on n'aime pas les enfants, bien au contraire, mais parce qu'on a compris que dans les violences conjugales, il fallait être très attentif à ce que, finalement, les enfants sont des petits êtres à la fois costauds, à la fois fragiles, à la fois merveilleux, à la fois compliqués, et que les enfants s'attribuent beaucoup de choses de leurs parents. Ils s'attribuent le fait d'être responsables, du fait que maman, elle pleure le soir parce qu'elle n'est pas... Elle est pas bien dans sa peau parce qu'elle se sent seule et que papa il est pas bien à la maison, il est en colère et qu'il est seul. Et souvent les enfants venaient exprimer ce sentiment de culpabilité. Donc on s'est dit mais comment on va les aider à pas être responsable de ça, parce que ça c'est délétère. C'est un enfant grandi avec l'idée qu'il a fait souffrir ses parents. À ce moment-là, ça va devenir un adulte qui se sent coupable de tout, qui a envie peut-être de s'auto-punir, peut-être d'accepter d'être soumis à quelqu'un qui le maltraite comme une espèce de faute qu'on essaye de laver. On est dans une société judéo-chrétienne où faute avouée à moitié pardonnée, et puis punir, ça aide à revenir, hein, c'est le principe du système judiciaire. On nous met en prison et après on sort de prison, on a lavé nos fautes, etc. Bref, tout ce mouvement-là, on le voyait naître chez les enfants qui vivaient dans ces couples où il y avait des violences. Et ça nous posait énormément de questions. Et du coup, on s'est dit, mais peut-être qu'on va commencer par envoyer un message fort. Alors, je dis pas qu'il faut faire comme ça ailleurs, hein, qu'on soit bien d'accord, mais c'est lié peut-être à cette culture aussi bassin minier. Par exemple, ici, un professionnel de Systémia, c'est encore vu aujourd'hui comme une espèce de docteur. D'ailleurs, les gens nous disent, ils se lâchent des fois parce que la conversation se passe bien. Et on a vous savez, docteur, puis là, c'est très surprenant parce qu'on n'est absolument pas médecin, hein, on est docteur, éventuellement, on veut bien être docteur amical de quelque chose, mais on n'a pas du tout le titre. Donc souvent, on leur dit, excusez-moi, on n'est pas docteur. Mais en fait, les gens, ça les empêche pas de continuer. Je pense que c'est une culture bassin minier. C'est-à-dire que, voilà, il y a la figure du médecin qui était aussi un peu le thérapeute, qui était un peu le confident, qui était un peu, des fois, le grand-père sage qui apportait, etc. Et du coup, on s'est dit, mais ça, on peut s'en servir. Et on s'est dit, mais quand les gens viennent et nous disent, avec leur enfant au bout de leur bras, excusez-moi de l'image, mais je voudrais vous voir parce que je veux le protéger, lui, il va pas bien. Nous, on s'est dit, mais il faut qu'on envoie un message à cet enfant. Et on s'est dit, on va dire à l'adulte, bah oui, on comprend, mais nous, on veut pas voir votre enfant. On veut vous voir, vous. Trouvez une solution pour votre enfant. Bah, venez pendant qu'il est à l'école, venez pendant qu'il est à la garderie. Vous êtes dans un centre d'hébergement, proposez aux professionnels de le garder une heure. Ils peuvent nous appeler, on va leur expliquer pourquoi il faut le garder une heure si vous êtes d'accord. Peut-être vous avez une voisine avec qui vous entendez bien, etc. Peut-être qu'à la maison, il y a votre mère qui habite, qui est voisine, vous pouvez vous organiser. Trouvez quelqu'un qui va le garder, et ça, on le disait devant l'enfant. Et en fait, on a compris que ça fonctionnait, parce que l'enfant, en fait, c'était pas du tout à destination de l'adulte, hein, c'est ça le paradoxe, c'était qu'on parlait à la mère de ça, et en fait, on envoyait le message à l'enfant que le docteur voulait pas le voir. Et on a compris que l'enfant comprenait que si le docteur veut pas me voir, c'est que c'est pas moi qui suis malade. C'était ça le... Donc en fait, c'était comme un processus de déculpabilisation. C'est-à-dire qu'on disait gentiment, oui, bien sûr que vous inquiétez pour votre enfant, mais comprenez bien que là, vous nous parlez de violence entre vous et monsieur, de violence au sein de votre couple. Et du coup, nous, c'est avec vous qu'on va en parler, pas votre enfant. Pour nous, il n'est pas concerné par ça. Et l'enfant, c'était quelque chose qui le déculpabilisait. Et d'ailleurs, on voyait même son visage un petit peu s'ouvrir. Vous voyez, à ce moment-là, il était moins enfant coupable, enfant accablé. Alors, les professionnels vont dire tous ces phénomènes d'enfants qui sont parentifiés, qui tout d'un coup viennent essayer d'organiser le couple de leurs parents, soit en étant... très bruyant, c'est-à-dire en faisant plein de bêtises pour attirer les deux parents sur leur dos, comme ça, ça les fédère, c'est terrible, mais ça existe, hein. Il y a des enfants qui sacrifient leur jeunesse pour que leurs parents s'allient contre eux, hein. C'est ce que je disais, l'effet bouc émissaire. Mais vous avez aussi des enfants qu'on ne repère pas assez dans notre société, qui deviennent hyper adaptés, c'est-à-dire tout d'un coup, ils vont être très sages à l'école, très sages à la maison, ils vont anticiper les besoins, faire la vaisselle, parce que les parents se déchirent, parce qu'il y a de la localisation, parce que il y a du mal-être, parce que ça pleure, parce que c'est en colère, et les enfants vont gérer le quotidien comme le feraient des parents avec des enfants, voilà, brouillons, mal dans leur peau, etc. Donc, et c'est tout ce travail-là que nous, on a commencé à prendre en charge. Finalement, la place de l'enfant, elle est essentielle. Elle est peut-être le maillon qui nous permettra de faire évoluer ça sur des générations. Vous voyez, malheureusement, on est parti pour des générations de travail. Et du coup, on a commencé à travailler comme ça, donc on a commencé à recevoir madame. Et on recevait ces femmes, et là, on a commencé à les écouter, elles nous racontaient à quel point elles étaient en colère ou en peur de ce qui se passait dans leur relation avec monsieur, parce qu'on avait créé cet espace-là. Elles n'étaient pas en train de dire « j'ai peur pour mon enfant », elles n'étaient pas en train de dire « j'ai peur pour la maison, le boulot, la voiture, la famille », elles étaient en train de parler d'elles. C'était déjà une victoire, parce que c'était peut-être la première fois où elles parlaient d'elles. Et là, ce qui les envahissait, c'était de parler d'elles dans leur lien conjugale. Et là, on s'est dit, mais il va falloir qu'on ose affronter ça, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on ose relancer leur proposition de parler du couple. Et là, on a commencé à parler de leur couple. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait des femmes qui vivaient dans des contextes conjugales qui étaient extrêmement violents, avec quelqu'un qui, finalement, qui essayait de les priver de tout, etc. Et cet homme-là, nous, on le voyait jamais. On ne voyait que ces dames. Donc, vous voyez, elle venait régulièrement, elle parlait, etc. Et on comprenait qu'elles n'étaient pas dans un lien où il y avait finalement une espèce d'affection ou une espèce d'amour, mais elles étaient plutôt dans un lien où elles avaient pris une place. Moi, je pense, voilà, à ces enfants complètement culpabilisés, voilà, 30-40 ans en arrière, et qui grandissent avec l'idée qu'elles sont des mauvaises filles, donc des mauvaises femmes, donc des mauvais objets, diraient les psychanalystes. Donc finalement, quelqu'un qui mérite pas d'être heureux, quelqu'un, voilà, là pour le coup, le syndrome Walt Disney, c'est l'inverse, hein, c'est horrible, c'est voilà, c'est le père fouettard tout le temps, et elles vont finir par rencontrer des hommes qui, pour X raisons, sont dans le besoin de tout dominer, de tout broyer, pour aussi des histoires peut-être d'enfants, tout ça. Moi, je compte sur les chercheurs pour nous éclairer là-dessus. Notre clinique nous fait penser à ça, et du coup, si on faisait ce constat-là, on les invitait à continuer à nous rencontrer tout doucement, tranquillement, à leur rythme. Elles venaient quand elles avaient, sur le rythme qu'elles voulaient, qui leur convenait le mieux. De temps en temps, elles nous disaient, ouais, mais les enfants, c'est compliqué. Donc, on s'est dit, bon, on a fait un super, on croyait en tout cas. On pense peut-être que demain, on dira autre chose. On pense qu'on avait fait un premier travail très intéressant en déculpabilisant l'enfant. Ok. Mais sauf que l'enfant, il avait quand même une mère qui souffre, et ça, on l'avait pas enlevé. Et du coup, on s'est dit, mais peut-être ces enfants, ils ont réellement, voilà, cette dame, elle s'inquiète sur le devenir de ses enfants. Ils ont vraiment besoin d'un espace. Et à ce moment-là, on a commencé à se dire, comment on va faire? Puisque le docteur des adultes ne peut plus recevoir. On s'était grillé, si vous voulez. Et du coup, on s'est dit, bah, c'est simple, on va ouvrir un espace pour les enfants avec une collègue, puisque on avait, voilà, on avait notre collègue qui était là, présente à cette époque-là. Et à la base, c'est Stéphanie Pillon qui a commencé à recevoir les enfants. Et c'était un espace que pour les enfants. C'est-à-dire que madame déposait les enfants, Stéphanie recevait les enfants, et Stéphanie ne racontait pas ce qui se passait à madame. C'était charge aux enfants de parler à madame, et à madame de parler aux enfants. Ça les aidait aussi à parler autrement ensemble. Pas forcément de « oh là là, c'est compliqué la vie », mais de dire « tiens, j'ai l'impression que t'es plus souriant en sortant. Ah ben oui, avec Stéphanie, on a... » Voilà. Et ça, c'était finalement, les enfants devenaient se réapproprier leur vie, parce qu'ils avaient le droit de raconter ce qu'ils voulaient aux enfants, parce qu'ils savaient que Stéphanie n'irait jamais valider ou invalider leurs propos. Et on a fonctionné comme ça. Et puis, l'expérience a fait qu'à un moment donné, on s'est dit « oui, mais c'est bien de travailler comme ça, mais comment on fait pour après... continuer ce travail ?» Et au bout d'un moment, on s'est dit, avec ce que nous renvoyaient toujours, hein, ces femmes, c'est comment on va mettre en place un lien où, à les aider à refonctionner ensemble autrement que dans, voilà, cette machine à broyer. Et là, on a créé un espace où finalement Stéphanie accompagnait les enfants et moi j'accompagnais madame, et on se rencontrait tous ensemble dans un espace plus sur la famille, et on a mis en place les thérapies familiales, et ça a fonctionné très très bien. Sauf qu'est arrivée ces situations où on avait ces dames qui venaient en premier, toujours. Et puis là, on se rendait compte qu'elles, maintenant, elles osaient nous dire des choses que nous, on découvrait à l'époque. Aujourd'hui, malheureusement, on les découvre plus. C'est presque dit quasiment d'emblée, mais je pense que ça, c'est l'effet du travail en réseau. On avait ces femmes qui disaient, ah non, mais moi, il y a des fois, il est violent avec moi, mais moi, il y a des fois, il fait des... Enfin, excusez-moi, monsieur, mais quand il rentre ivre alors que je compte sur lui, pour ça m'insupporte. Et du coup, je peux plus, moi. Je vais lui dire que c'est inadmissible qu'il vienne en étant bourré, parce que moi j'ai besoin de lui, j'ai besoin de soutien. Ok, t'as passé ta journée à travailler, mais tu crois que moi je me suis amusé à la maison avec nos trois gamins, en bas âge, etc., etc. Bah, ça, c'est plein de situations que j'ai en tête. Et ces femmes, elles me racontaient qu'elles étaient tellement en colère qu'ils soient défaillants avec l'alcool, qu'elles n'arrêtaient pas de le harceler. Elles me disaient, j'ai conscience que je le mets en colère, j'ai conscience, mais il faut qu'il change, c'est insupportable. Sauf que ça crée de la dispute, et forcément tout ça activé par l'alcool, puisqu'on a compris maintenant que l'alcool est un activateur, c'est un catalyseur, hein, on est moins civilisé sous alcool, on lâche plus des choses de notre part entre guillemets animale. Et bien à ce moment là on pouvait arriver des disputes qui entraînaient des situations de violence, avec des fois des situations dramatiques de où on sortait les couteaux, où on se balançait sur les coins de table, avec des brûlures même de cigarettes parce qu'on venait se cogner les uns aux autres avec les cigarettes dans plein de situations extrêmement violentes qui se déroulaient sous ce mode-là, avec des espèces de cette dame, elle était dans une colère, dans un besoin que ça change, qui était complètement légitime, hein, mais avec un besoin de le bouger, lui, comme si elles avaient envie de le changer, comme si elles avaient envie qu'il soit cet homme qu'elles ont toujours rêvé, ce père qu'elles ont toujours rêvé, etc., etc. Et ces situations-là, elles sont venues nous encombrer, finalement. C'est-à-dire que on s'est dit, mais comment on va faire? Parce que c'est pas, on fait pas un travail contre l'autre à ce moment-là. Elles sont en train de nous parler que de lui. Elles parlaient plus du tout d'elles. Elles étaient en train de dire, mais je veux que ça change mon couple. Je veux pas qu'il s'arrête, mon couple. C'est-à-dire qu'on avait les situations où la dame venait nous dire, je veux que mon couple s'arrête. J'en peux plus. Je sens que ça va être l'horreur absolue, et c'est déjà l'horreur absolue. Et puis on avait toute cette partie-là où finalement ils vivaient des violences extrêmes, mais avec l'idée que quand il n'y avait pas de violence, c'était pas 24 heures sur 24, il y avait le besoin d'être à deux et le besoin de continuer à essayer de le changer, de le faire devenir cet homme que j'ai envie à la maison, etc., etc. Peut-être même cet homme qu'elles avaient rencontré et qui était devenu malheureusement comme ça parce qu'il avait perdu son job, parce que des fois un deuil de parents est difficile, parce que des fois il a... le syndrome Walt Disney... Elle doit me comprendre, c'est logique, elle doit lire à travers moi. Et madame, elle attendait de monsieur qu'il la comprenne, qu'il lise. Bah oui, hein, dans Walt Disney, ils se comprennent, c'est incroyable, quoi, ça va vite, etc. Ouh là là. Et du coup, ça crée plein de choses comme ça. Et on s'est dit, c'est tout. Elle l'arrête pas. Donc on va dire, mais qu'est-ce que vous attendez? Finalement, si tout était possible, qu'est-ce que vous attendez, nous? Et ces dames, elles ont commencé à dire, mais aidez-moi à le changer. Donc ça, forcément, on a dit non. Puisqu'on ne change, nous, on ne changera jamais les gens, hein, on ne sait pas le faire. Par contre, on a dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que nous, on le rencontre, qu'on discute avec lui? Et là, on a senti que c'était une vraie demande. Donc, on a dit, écoutez, dans un premier temps, comme c'est quand même des histoires de violence, nous, on a besoin de précautions, on va le rencontrer après vous. Donc, on vous a rencontré une fois, on va le rencontrer une fois. Et on faisait le même travail. Et ce monsieur, au début, nous disait que c'était la pire des femmes, et très vite, il se mettait à dire que finalement, c'est ce qui était le plus compliqué, c'était d'être seule à la maison, que bien sûr qu'elle était pénible, enfin voyez, le discours de son point de vue, etc. Et nous, ce qu'on se rendait compte, c'est que lui aussi était non pas dominé par madame, non pas dominant, mais vraiment dans cette espèce de folie, de maladresse et de violence où... à chaque fois qu'il se rapproche, il se heurte. C'est quelque chose de très fort, hein, et au sens premier du terme, hein. Et du coup, on s'est dit qu'il fallait qu'on réfléchisse, et c'est là on a refait appel à Jean-Pierre Brugnot, c'est là on a travaillé le lien conjugal, et on s'est dit, voilà, on a finalement tout un travail à faire avec ces gens-là, et on les a accompagnés cette fois-ci. Après, on a dit, on va vous recevoir ensemble. Donc quand c'est pas des situations très clairement de domination exacerbée, ça se voit fort, hein, on le voit fort, et de toute façon... on verra jamais l'autre, puisque l'autre ne s'abaissera jamais à rencontrer un professionnel. Il est bien meilleur que nous, il est au-dessus, ils se sont au-dessus de tout le monde, même des policiers. Les policiers sont très en danger, hein, face à ces figures-là, etc., etc. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a énormément de couples qui souffrent de ne pas savoir se parler et d'avoir des attentes envers l'autre surdimensionnées. L'histoire de... Il y a des gens qui viennent ici et qui me disent « Mais je comprends pas qu'ils me comprennent pas. » Et moi, forcément, dans ma tête, je me dis « Bah si, madame, malheureusement, il y a personne qui comprend personne. » Et c'est le drame de notre société. C'est pour ça qu'on a inventé des métiers de la parole. C'est parce que nous, finalement... On a un métier qui est basique, on aide les gens à essayer de se parler pour qu'ils s'écoutent et qu'ils apprennent des informations les uns sur les autres. Ils ont l'impression de se connaître, c'est complètement faux. D'ailleurs, les gens qui font des thérapies individuelles se découvrent en thérapie. Vous imaginez, on en est là, quoi. Donc on est dans une inconnue terrible. Et en attendant, il faut que les violences s'arrêtent, donc on y travaille très fort. Et c'est pour ça qu'à Systémia, on est toujours en lien avec la police et la justice le plus possible. Mais en même temps... Il faut trouver des solutions diverses, multiples et variées, et il faut les étendre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas fermer la porte à des gens qui souffrent sous prétexte qu'on ne comprend pas. Moi, je pense qu'il faut ouvrir la porte, prendre beaucoup de précautions et essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et ben là, on a vu émerger toute une population de gens qui veulent vivre à deux et qui sont incapables de vivre à deux. Alors, ils se séparent, ils se retrouvent, ils se séparent, ils se retrouvent. Au début, c'est tout beau, tout rose. C'est vraiment tout beau, tout rose, c'est la rencontre, c'est merveilleux. C'est des histoires où moi on me dit « Oh là là, j'étais en discothèque, je l'ai rencontré en discothèque. » Mais vous savez, comme s'il n'y avait que lui en discothèque. C'est très fort, hein, comme si il y avait un faisceau lumineux sur cet homme et elle ne voyait plus que lui. Lui, il va dire « Oh là là, elle était en train de danser, c'était merveilleux. » Ils sont transportés et ces gens-là font, je vais le dire hein, comme je le pense, une petite erreur. Peut-être que je me trompe, mais une petite erreur, c'est de penser que ça suffit. C'est-à-dire que cet élan amoureux suffit. Alors que moi, j'ai tendance... Alors, ça, je veux pas être un tue-l'amour. Et moi, j'aime bien beaucoup rêver et voir des films voilà, qui se finissent bien. Je suis complètement d'accord là-dessus. Mais voilà, moi, dans mon domaine d'activité, j'ai envie de leur dire « Stop, attention, à partir du moment où tu tombes amoureux, eh ben, tu démarres un travail. » Et c'est ce travail-là que nous, on propose, c'est-à-dire de revisiter cette histoire, l'arrivée d'un enfant. C'est un séisme dans ces couples-là, parce qu'ils passent de 2 à 3 et déjà 2, ils ne fonctionnent pas. Vous imaginez, on rajoute une troisième dimension et c'est pas rien, on rajoute un enfant, c'est-à-dire quelque chose, oh là là, si on devait parler de notre parentalité, rien qu'ici ou avec vos auditeurs, on verrait apparaître tous nos troubles, toutes nos angoisses, est-ce que je suis un bon parent, est-ce que je suis un mauvais parent, toute la culpabilité de je l'ai puni parce que j'étais crevé, j'aurais pas dû. Ben, on est des êtres humains, on est imparfaits et toute cette imperfection-là, elle doit être mise sur la place publique pour dire « Allez, on est imparfait, on doit grandir. » Parce que si on n'en parle pas, on fait comme si ça n'existait pas. Donc du coup, nous, on a décidé de dire que tout existait, on est OK, et on a mis en place des espaces de thérapie conjugale pour ces couples, parce que ces couples-là souffrent réellement. On va les aider des fois à se démarier, mais c'est eux qui vont en faire le constat. On va les aider à se redonner une chance si eux veulent vraiment. De toute façon, ils feront sans nous. Donc autant essayer de voilà de dire attendez, on va essayer de médiatiser ça le plus possible. On va essayer de vous ouvrir les yeux. On va essayer de Madame et Monsieur comprenez que l'autre, c'est pas parce qu'il vous aime qu'il vous comprend. D'abord, il vous aime, c'est déjà énorme, etc., etc. Et comment vous pouvez oser dire à l'autre, mais moi je veux ça comme ça, et comment l'autre peut dire, ouais, mais ça comme ça, ça me convient pas, ça on peut, mais comment on pourrait le faire autrement? Bref, de la négociation du quotidien, même sur les relations sexuelles, c'est incroyable comme les êtres humains sont démunis. Il y a de plus en plus de sexologues, et ben on a de plus en plus de mal à se comprendre dans nos chairs, dans nos corps, dans nos sensualités, etc., etc. Et si vous interrogez la masculinité sur ces histoires de sexualité, vous allez voir à quel point c'est troublant. Vous allez voir à quel point les hommes sont dans une panique totale parce que il y a la compétition, ils sont censés être bons, ils sont censés combler l'autre, et on va être très clair, les hommes sont très à la ramasse là-dessus, etc., etc. Et les femmes sont en attente d'autres choses, et elles-mêmes ne savent pas non plus comment gérer ça, etc. Bref, il y a tout un travail, je pense, sociétal, que nous, on a accepté de faire à notre petit niveau, d'accompagner ces couples à se regarder autrement, à se quitter sereinement, ça c'est un vrai progrès, parce qu'encore une fois, un tiers d'homicide à la séparation, excusez-moi, faut qu'on se questionne. Il faut que cette séparation, on l'accompagne. Il faut qu'on la favorise, s'il y a besoin de la favoriser. Mais si on l'accompagne pas, moi, je pose la question, voilà, de ce qu'on crée comme maltraitance, etc., etc. Et puis, finalement, on s'est rendu compte que ces couples-là, quand ils étaient accompagnés, ben, les enfants s'apaisaient. Parce que quand ils arrivaient à mieux se parler, les enfants voyaient d'autres modèles conjugaux, d'autres manières de vivre à deux, d'autres manières d'être amoureux. Et je crois que l'amour, ça s'apprend. C'est-à-dire qu'il y a des gamins qui regardent comment les parents se parlent, comment les parents se tiennent la main, comment les parents peuvent s'en... bien sûr qu'on va continuer à se disputer, mais aussi comment on peut être dans quelque chose d'apaisé. Et c'est peut-être ça l'une des clés pour faire diminuer cet affreux chiffre que vous donniez tout à l'heure.
11h30 sur Radio Plus et on est toujours dans votre magazine Savoir Plus et on s'intéresse depuis ce matin aux violences conjugales en compagnie de Laurent Lyotard et de Systemia qui est donc une structure qui se consacre à la fois aux thérapies concernant les violences conjugales et qui est également un lieu de référence sur ces problématiques de violences conjugales situées, je vous le rappelle, à Lens, et on continue notre entretien avec Laurent Lyotard.
Combien de temps peuvent durer ces thérapies ? Est-ce que vous fixez une limite ?
Alors c'est toujours un petit peu la même dynamique. Que ce soit sur l'accueil de jour, on va travailler l'aide au départ, le fait d'extraire ses femmes, etc., etc. Que ce soit sur les thérapies individuelles avec ses femmes, des fois quelques hommes, rarement quelques hommes, mais ça arrive, qui sont un peu sous l'emprise, etc. Comme quoi c'est un peu plus complexe que ce qu'on imagine. Ça aussi, c'est un travail qui va être fait. Et là, c'est le rythme, la durée, la temporalité, même les lieux sont donnés à la personne avec laquelle on travaille. C'est-à-dire que c'est elle qui va décider. Alors, bien évidemment, on va pas faire de la visite à domicile le dimanche soir, pour des raisons de, il s'agit pas que nous non plus, on verse dans quelque chose de compliqué. Mais dans un cadre qui est institutionnel, puisqu'on est un service, une association, avec des crédits, de la puissance publique, etc., on est bien évidemment borné à des choses. Donc, nous, à Systemia, sur l'accueil de jour et les thérapies, on va fonctionner comme ça. Sur les thérapies, on va avoir un cadre plus rigide. On fonctionne plutôt par rendez-vous. Mais c'est un choix. D'autres vont fonctionner autrement. Et ils ont raison, puisqu'on est vraiment à tâtons. Donc, pour l'instant, nous, on est là-dessus. Donc, nous, c'est des rendez-vous une fois par mois, à peu près. Les enfants vont être vus en fonction de l'âge, une fois tous les 15 jours, une fois tous les 3 semaines, une fois tous les mois. Grosso modo. Et puis, c'est les gens qui décident de revenir ou pas à la fin de chaque séance. Sur l'accueil de jour, les gens n'ont même pas décidé de s'ils reviennent ou pas, puisque de toute façon, ils peuvent décider de partir, revenir, nous ressolliciter, nous envoyer un petit message, revenir autrement, demander à être accompagné, pas accompagné, envoyer quelqu'un d'autre. Bref, ça, l'accueil du jour, on essaye d'en faire quelque chose de très très souple dans l'enveloppe, clairement, là pour le coup, dans l'enveloppe qui nous est impartie, c'est-à-dire avec les moyens financiers qui sont les nôtres. Donc on arrive quand même à fonctionner comme ça. Sur le thérapie, on a des multiples fonctionnements, on a du partenariat, on a... notamment le conseil départemental qui est très en attente de ces outils-là, etc., etc. On a ces fonctionnements-là. Et puis pour ce qui est de l'hébergement, là on est dans quelque chose du 24 sur 24, 7 jours sur 7. On est sur l'urgence, l'immédiateté, l'accueil inconditionnel. Et à ce moment-là, c'est pareil. Il va y avoir des temps d'hébergement en fonction des dispositifs. Mais si la personne est accueilli quelques jours en nuitée d'hôtel, c'est-à-dire dans une maison qui a été réhabilitée, à proximité du CHRS pour qu'il y ait ce soutien, cette présence éducative et sécurisante, ça va être quelques jours, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle va être envoyée chez elle ? Non, ça veut dire que si son projet c'est de continuer la séparation, elle peut être à ce moment-là admise dans des hébergements d'urgence, voire dans du centre d'hébergement et de réinsertion sociale, où là on est au plus long cours, puisque c'est des contractualisations de 6 mois, mais renouvelables autant que nécessite le projet de la personne. Bref, là, encore une fois, là, la personne, elle a dans un cadre restreint, c'est-à-dire malheureusement les limites c'est un peu comme les administrations, on a tous des limites, alors c'est compliqué, mais c'est comme ça. Mais en dehors de ces limites-là, la personne, elle est actrice pleinement et entièrement de son projet, et c'est extrêmement important pour notre association, parce que elle se base sur une philosophie forte. Il faut comprendre que l'accueil Neuf de Cœur, ce sont 9 femmes qui, en, le 9 septembre 1989, ont créé quelque chose pour ces femmes. Et je pense que ces 9 femmes-là avaient à cœur de rendre les femmes le plus responsable de leur vie, mais dans le sens noble, pas culpabilisant du terme. C'est-à-dire, comment on peut accompagner le projet de chacune, comment on peut aider chacune à se réaliser. Et depuis 1989, on ne fait que développer des dispositifs pour qu'elle se réalise, jusqu'à créer un centre d'hébergement qui accueille des couples, parce qu'il y a des femmes qui ont besoin de venir en couple, parce qu'elles ne veulent pas quitter leur couple, elles veulent, voilà, elles se retrouvent, je sais pas moi, mises à la rue pour des impayés de loyer, mais elles veulent pas se séparer de monsieur, bah du coup voilà, le CHRS a dit ok, bah si c'est comme ça, ça veut dire qu'il faut y répondre, et on va essayer, et on fabrique, et on tâtonne, et on avance. Jusqu'à, bien évidemment, très tôt accueillir les enfants, puisque c'est comme ça dans notre société. Malheureusement, il y a une réalité de ces femmes qui peuvent se retrouver à la rue avec des enfants. Il y a malheureusement encore aujourd'hui en France des enfants SDF, il faut le savoir. C'est incroyable, mais c'est encore vrai aujourd'hui. Et ils sont quantifiés. Et c'est plus de... Voilà, c'est au moins plus de 10 000 enfants qui sont à la rue. J'avais en tête 13 000, mais c'est un chiffre qui est ancien. Peut-être qu'il est plus élevé aujourd'hui. Enfin, vous voyez, plein de choses comme ça. Et à chaque fois, nous, on a à cœur d'y répondre, de construire. Donc finalement, la durée, elle est donnée à la personne. Et moi, j'ai par exemple des dames qui sont venues en thérapie seule. Puis un jour, elles ont dit, mais moi, je veux que mon mari vienne parce que je sens que je suis en train de mettre en place des choses, de bouger. Et lui, ça va pas. Donc il est venu. Et puis finalement, elles ont arrêté la thérapie de couple. Elles sont parties. Puis un jour, elles sont venues en disant, ça y est, je me suis séparée. Voilà, j'ai fait tout ce que j'avais besoin de faire, j'ai redonné une chance à monsieur, je me suis redonné une chance. Aujourd'hui, je reviens vous voir parce que je veux continuer ce travail sur moi, et c'est elles qui m'ont, voilà. Et puis des fois, moi, j'ai des femmes qui sont venues avec seules, avec un couple, elles sont venues seules avec un autre couple. Tant que c'est des choses qui se font dans une sécurité, dans ce cadre important de la loi que dont nous on a besoin, qui permet cette action d'accompagnement, parce que sans la loi on est en danger, on se met tous en danger. À ce moment-là, il y a pas de souci, on va être à l'écoute et on va construire. Et on en est aujourd'hui à des espaces de thérapie où j'ai une collègue qui part de Systémia, qui va rejoindre des gens, et puis pendant une demi-journée ou une journée complète, la famille et ma collègue vont partager une activité qui va être... C'est des choses simples, hein, une visite de zoo, un flunch, un temps de piscine, du bowling, une journée pêche, peu importe. C'est la famille qui décide toujours. Vous voyez, ma collègue, des fois, elle se retrouve à faire des choses qu'elle n'avait jamais faites, mais elle a le courage de dire « Ok, je vais expérimenter ça ». Et ce temps-là est aussi un temps de partage. Mais c'était à la demande de certaines familles. Vous voyez, à chaque fois, et on fait toujours du sur-mesure.
Est-ce que ces thérapies produisent, selon vous, des résultats significatifs ? Question posée autrement, est-ce que les pouvoirs publics, eux, attendent ce type de résultats, des résultats quantifiés, etc. Comment vous réagissez par rapport à ça ?
Ouais, tout à fait. C'est vraiment une question qui est compliquée, mais qui est pas compliquée que pour nous. Elle est compliquée pour tous ces services. Je pense, est-ce que les urgences c'est vraiment rentable ? Est-ce que moi j'ai tendance à penser que oui. Malheureusement, rentable, ça veut dire quoi ? Au niveau des statistiques, ce que j'ai envie de dire, moi, la première chose quand je vous ai écouté sur la question qui m'est venue, c'est l'histoire de la récidive. Et ben ça, c'est une question qui est extrêmement complexe. Par exemple, à Systémia, on a zéro récidive. Et je peux l'affirmer. Zéro récidive. C'est-à-dire que les thérapies fonctionnent merveilleusement. C'est incroyable. On est des génies. Pourquoi je dis ça ? Parce que les statistiques sont mesurées sur un an. Donc j'ai zéro récidive sur un an. Sur 10 ans, je suis moins sûr, mais ce que je viens de vous dire de là, c'est malheureusement quelque chose qui encombre... Voilà, j'ai la chance aussi de travailler, ça c'est la chance de l'interdisciplinarité. Moi, je travaille beaucoup avec les conseillers d'insertion et de probation. Donc, voilà, ce sont des professionnels qui sont au ministère, donc des fonctionnaires du ministère de la Justice, qui accompagnent les gens qui sont sous main de justice, c'est-à-dire des gens qui sont jugés, soit incarcérés, soit pas incarcérés. Hein. C'est l'histoire du bracelet et puis plein d'autres dispositifs. C'est un monde d'une complexité, d'une richesse incroyable. Ce sont des professionnels merveilleux. Au moment où je vous parle, ils sont dans une traversée du désert terrible, en tout cas sur notre secteur. Ils sont vraiment dans des conditions de travail que je ne souhaiterais à personne. Je les félicite de, voilà, je suis tout cœur avec eux sur leur combat. J'espère qu'ils vont être écoutés. Vous voyez, on manque de moyens partout, hein. C'est terrible cette histoire-là. Mais voilà, je leur souhaite d'arriver à trouver des conditions de travail meilleures. Là, ils sont à un nombre de dossiers incalculable et ils sont supposés avoir des pouvoirs magiques puisqu'ils sont payés pour qu'il n'y ait pas de récidive. Et ils sont confrontés à la même difficulté. Ça veut dire quoi la récidive? Ça veut dire que les gens sont plus jamais violents, les gens prennent plus jamais de drogue, les gens font plus jamais d'excès de vitesse. Ben, écoutez, si on écoute tout le travail qui est fait sur la sécurité routière, qu'est-ce qu'on est en échec? Ça ne fonctionne pas. On en est à mettre un radar tous les 12 kilomètres, et puis les radars deviennent de plus en plus performants parce qu'ils vont mesurer un tas de choses. Et finalement, on continue à avoir des gens qui sont en excès de vitesse, on continue... Alors, on a moins d'accidents grâce à ça, mais peut-être grâce aussi au fait que les voitures sont beaucoup plus sécurisées qu'avant, grâce au fait que on améliore énormément la qualité des routes, etc. Grâce aussi au fait qu'on éduque. Donc aujourd'hui, j'ai tendance un peu, mais ça c'est mon utopie, à penser qu'on va éduquer des citoyens. J'espère que c'est pas un piège économique. Et que peut-être que on va arriver sur le bien vivre ensemble, à se parler autrement, moins se juger vite, etc. Et que du coup, par effet de rebond, la sécurité routière en bénéficiera. Si je fais tout ce parallèle-là, c'est parce que la sécurité routière, c'est travailler depuis un moment dans les violences au sein du couple, au sens large du terme, c'est-à-dire tout ce qui est les violences intraconjugales avec ces situations de domination et tout ce champ énorme de violence où les gens s'entretuent allègrement alors qu'ils ont pour projet, au contraire, de quelque chose de, voilà, de merveilleux, peut-être trop d'ailleurs. On est au début, et bien évidemment que quand on donne de l'argent à quelqu'un, on estime que le travail doit être bien fait, c'est là où je les accable pas, mais les critères c'est compliqué. Et moi j'ai entendu longtemps un procureur de la République, je ne citais pas un autre ailleurs, qui disait grâce à ma mesure il y a zéro récidive, et je me disais, dans ma tête je me disais oui sur un an, et c'était calculé sur un an. Et j'entendais d'autres associations prônant le zéro. Ouais, c'est pour ça que j'ai fait mon petit sketch au début. Jamais vous n'entendrez ici, sauf sous forme ironique, bien sûr qu'on est, on est incapable de dire qu'on a 0% de récidive. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des gens qui reviennent en disant « Écoutez, ça va nettement mieux. » Et dans nos échanges avec nos financeurs, on évite d'avoir des critères sur la récidive. Par contre, on dit voilà, nous on a une file active, c'est-à-dire on a un nombre de personnes qui viennent, on a un nombre de personnes qui reviennent, ils viennent plutôt demander ça et ça. Donc on leur décrit finalement tout ça, charge aux financeurs à dire on arrête, on continue. Il y a des financeurs qui arrêtent parce qu'ils veulent être assurés, ils aiment bien les histoires, les contes de fées, syndrome Walt Disney, hein, ça existe aussi chez les financeurs. Vous avez envie de croire, eh ben c'est ok. Pourquoi pas? Et puis il y a des financeurs, peut-être plus courageux, peut-être plus sereins, peut-être plus matures, hein, je vais le dire comme ça, qui restent, qui continuent, et on en a plutôt plus qui restent qui partent, même d'autres qui apparaissent. Donc j'ai tendance à croire que finalement l'humanité est sur un bon chemin, donc continuons comme ça. Et puis bah, pour les miracles, je vous encourage à aller voir ailleurs.
Alors on va terminer avec le Grenelle, hein, le premier Grenelle des violences conjugales qui a été lancé au mois de septembre. 10 mesures d'urgence ont été annoncées lors de ce Grenelle. Parmi les mesures, 1000 nouvelles places d'hébergement et de logement, le lancement d'un audit de 400 commissariats et gendarmeries pour permettre de remédier aux dysfonctionnements éventuels lors des dépôts de plaintes, ou encore la possibilité de déposer plainte directement dans les hôpitaux. Alors il y a d'autres mesures évidemment, hein. Comment avez-vous accueilli ces premières mesures gouvernementales, Laurent Yolotard?
Alors je vais parler cette fois-ci au nom, si vous en êtes d'accord, au nom du réseau, c'est-à-dire autant en étant responsable de Systémia, professionnel de l'accueil Neuf de Cœur, cette association qui milite depuis très longtemps. Mais également, je veux pas oublier mes partenaires du réseau. Bah, il faut comprendre que nous, ça fait un moment qu'on attend tout ça. Honnêtement, on attend beaucoup plus. Par exemple, nous, on milite depuis la création de l'accueil de jour ici pour qu'un policier vienne et qu'il puisse y avoir des dépôts de plainte qui soient faits ici. Voilà, je vous remercie d'être venu dans nos locaux parce que, bah, ça a un sens. Ça fait pas tellement commissariat, ça fait pas tellement institution ici. Je pense que c'est une richesse, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui doivent être beaucoup plus à l'aise d'accueillir le policier plutôt que se retrouver dans un commissariat. Moi, j'ai déjà accompagné des dames dans les commissariats. Franchement, je comprends qu'on veuille faire un audit sur les commissariats, les gendarmeries, mais par pitié, faites un audit sur leurs conditions de travail, parce que je peux vous assurer, moi quand j'étais gamin, il y a une période de ma vie où je voyais les policiers, je me disais, waouh, c'est un métier génial, on protège les autres, on fait respecter la loi, j'ai eu à un moment donné envie de faire ça. Eh ben, je vais être franc avec vous, ça va peut-être être dur à entendre, mais je suis très heureux de pas avoir pris cette carrière-là, parce que franchement, ils sont pas bien traités. On peut leur lancer la pierre, on peut leur reprocher d'être pas accueillant, d'être pas disponible, d'être défaillant. Mais moi, il y a très longtemps, je parlais avec un commissaire divisionnaire et il me disait, mais moi j'ai 10% de mon effectif qui est en arrêt maladie, ça veut dire 60 policiers qui sont absents. J'ai un tiers de mon parc automobile au garage, c'est-à-dire des véhicules qui sont pas réparés. Vous vous rendez compte du truc ? Ça veut dire qu'on va... moi à Systémia, ça fait, et je sais que si le directeur était là, il rirait parce qu'on a eu des débats sur, ben voilà, moi je veux qu'il y ait des fauteuils ici, c'est terrible parce que ça veut dire un petit peu plus de budget, c'est pas des chaises, c'est des fauteuils, je veux que les gens ils s'installent, voilà, là on est posé, etc. Il y a une espèce de décor, on essaye de faire, alors il y a encore des travaux, cette maison est pleine d'humidité, donc on va refaire les murs, ça va rien, et ben j'y tiens absolument parce que c'est de l'argent bien investi. Quand les gens sont mieux accueillis, ils se livrent plus facilement, ils reviennent plus facilement, ils accrochent un travail. Enfin, franchement, je peux vous assurer qu'il y a énormément de travail. Moi, je serais le dernier à les accabler, y compris sur la justice, hein, y compris sur les parquets, sur la magistrature, y compris, voilà. Parce que, et je pense aussi à nos chers motivés des urgences et également de l'hôpital en son ensemble. Sur notre territoire, excusez-moi, mais la psychiatrie est en lambeaux. Et je pèse mes mots. Après, vous pouvez venir me critiquer. Je serai ouvert. Et je m'excuserai si j'ai. Mais c'est le ressenti que j'ai. Moi, j'ai des professionnels qui sont au bord de l'explosion dans le réseau, etc., etc. Bref, cet audit-là, faites-le, mais faites-le en ayant vraiment un regard sur comment les aider à mieux travailler. Ne les accablez pas en disant vous faites pas assez bien les choses. Ce sont des gens motivés, vraiment, pour le coup, hein. Et en plus, ceux qui se spécialisent sur les violences intrafamiliales, les violences conjugales, bref, toutes ces violences, quand on est policier, c'est la pire des choses à travailler, parce que moi, les policiers avec qui j'ai longtemps travaillé et avec ceux que je travaille aujourd'hui, alors c'est beaucoup des policiers parce que Systémia est en zone police, mais quand je suis référent sur les autres arrondissements de Lens, les arrondissements du Pas-de-Calais, je vois des zones gendarmerie, c'est la même chose, hein. Ce sont des gens qui me disent, mais c'est très compliqué pour nous d'intervenir dans les violences conjugales. Voilà, moi, ma collègue, elle s'est pris une chaise. C'est-à-dire qu'au moment où on a mis les menottes à monsieur, madame, elle a claqué une chaise dans le dos de la policière en disant, vous allez pas me prendre mon mari. Tout ça sur fond d'alcool partagé, tout ça, voilà. Des situations qui sont pour eux peut-être les plus complexes. Voilà, c'est comme pour nous, on avance à tâtons, on sait pas, c'est compliqué, c'est des histoires où je t'aime et je te déteste à la fois, enfin un mélange, et c'est des policiers, ils sont pas armés, outillés pour avancer là-dedans de manière sereine. Franchement, ils ont beaucoup de mérite, croyez-moi. Et je dis ça au moment où toute la fonction policière est remise en cause par rapport à... Et c'est condamnable, attention, hein, sur ce qui s'est passé sur les gilets jaunes. Moi, je suis d'accord pour qu'on ouvre le débat, etc. Mais voilà, moi, je vais parler de ma partie, de ces êtres humains qui finalement finissent par voir une dame victime de violence conjugale. Ça fait 5 fois qu'elle vient, ils en peuvent plus, ils sont débordés, rien ne va, ils sont en train de remplacer un collègue qui remplace un collègue qui remplace un collègue, ils ont pas de bagnole pour se déplacer, etc. Et tout d'un coup, ils vont pas l'accueillir. Ils vont pas être accueillants. Ben, on vous met à leur place une demi-journée, vous n'êtes plus accueillants. D'accord ? Donc ça, voilà. Je veux d'abord dire ça parce que je ne veux pas qu'on s'oppose. Je ne veux pas qu'on cherche l'ennemi. Moi, dans le réseau L'Ensois, qui est un réseau de prévention et lutte contre les violences conjugales et maintenant depuis peu les violences intrafamiliales, puisqu'on est débordé de demandes là-dessus, mais je vais sortir de... c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Moi, je félicite nos collègues policiers, nos collègues du conseil d'insertion et probation. Je vais en oublier, je m'en excuse, mais tous ces gens, le parquet, les magistrats, tous ces gens, ils font un boulot merveilleux, ils n'ont pas de moyens. Moi, c'est ça que je tire comme leçon de la vie, et excusez-moi, au risque de me tromper, mais c'est celle-là, c'est que je crois qu'on avance plus loin et plus longtemps et mieux en travaillant ensemble plutôt qu'en s'opposant. J'ai peur que ce Grenelle favorise, malgré lui, hein, attendez, hein, c'est pas une volonté de personne, mais favorise l'opposition, c'est-à-dire que tout d'un coup, on considère que le problème dans notre société, c'est les hommes. Ok, mais alors à ce moment-là, on va réactualiser la guerre homme-femme. Non, s'il vous plaît, moi je me sens féministe du matin au soir, et c'est-à-dire que j'ai envie d'une société où on vive ensemble le mieux possible. Point. Je ne regarde pas les femmes comme des anges, elles ont des défauts, elles ont des qualités, je ne regarde pas les hommes comme des êtres merveilleux, mais pas comme des monstres non plus, vous comprenez? Eh ben, je veux retrouver ça aussi, c'est-à-dire que je ne veux pas qu'on considère que, voilà, il y a eu cette histoire de ce gendarme qui a fait grand éclat, etc., etc., bien mal lui en a pris, et il faut peut-être, en effet, réfléchir à tout ça, etc., mais je veux pas qu'on tire sur l'ambulance. Moi, j'ai besoin de policiers efficaces, j'ai besoin de policiers qui soient sereins dans leur travail, j'ai besoin de policiers qui ont les moyens, parce qu'ils sécurisent nos couples, ils sécurisent nos actions, ils sécurisent les enfants, ils me sécurisent moi, et j'ai besoin d'une loi qui soit claire, qui soit exprimée, mais qui n'oppose pas. Je souhaite ça, je pense que peut-être c'est la seule leçon à retenir. Et du coup, dans le Grenelle, bien évidemment que, vous savez, les places d'hébergement, on en manque cruellement, il faut être clair, on en manque cruellement. Ce qui fait qu'il y a des situations de violence conjugale qu'on ne connaît pas, parce que les personnes savent bien qu'elles n'auront pas, ou alors elles vont se retrouver dans un CHRS, mais avec tout, on va dire foyer à ce moment-là, vous savez, l'ancien foyer, c'est-à-dire, et j'en visite encore aujourd'hui. C'est-à-dire ce matin, je sors d'un CHRS qui essaye de s'humaniser. Hein, il y a une loi d'humanisation, c'est-à-dire qu'on doit, l'État a débloqué depuis quelques années de l'argent pour que les CHRS refassent leurs locaux, parce que c'est encore des dortoirs, parce que c'est encore vieillot, et que je comprends bien qu'une dame n'ait pas envie de se retrouver là-dedans. C'est affreusement violent aussi pour elle, et que la violence, elle est partout, elle peut être institutionnelle. Donc il faut accompagner, il faut pas rejeter, il faut pas dire à ce CHRS là, mais enfin qu'est-ce que tu fais? Il faut dire oui, c'est bien, allez, vas-y, on va s'humaniser, on va t'aider, on va réfléchir avec toi, etc., etc. Il faut donner des moyens à tous ces gens, il faut travailler ensemble, et des places d'hébergement, c'est une très bonne idée. Il faut que ce soit des places d'hébergement qui s'appuient sur une expérience de pluralité, c'est-à-dire comme ça marche finalement un petit peu sur notre territoire, où on les modèle, où on s'autorise des expérimentations, où on part pas du principe qu'on a raison. On n'est pas là pour guider les gens, on est là pour les accompagner, c'est pas la même chose. Les gens sont propriétaires de leur vie, nous on est propriétaires de l'institution, et là on négocie. C'est vraiment tout ça qui est important, et sur les mesures sont bonnes. Et puis après, moi je vais être le vieux monsieur un petit peu sur, j'allais dire le vieux, hein, sans finir la phrase, mais j'espère que ça va pas être une chose comme ça, clac, on fait un appel d'offres, on fait un appel d'annonce, et puis que derrière ça se referme tout doucement. Je crains que, après l'effet MeToo, l'effet Balance ton porc, l'effet Grenelle, l'effet féminicide, je me méfie beaucoup des effets de mode. Malheureusement, j'ai l'expérience. En 2010, c'était la grande cause nationale des violences faites aux femmes. Il y a eu plein de trucs. Alors attention, il y a des choses qui ont perduré. L'État a fait un très très bon... Encore une fois, il n'est pas question non plus de... Tout le monde a des défauts, tout le monde a des qualités. Il n'est pas question non plus de tirer sur l'État. Ce serait Pour moi, c'est trop facile. On est tous responsables, on est tous ensemble. Y a des choses qui ont perduré, mais il y a des choses qui se sont abîmées. Voilà, par exemple, animer un réseau comme celui de l'arrondissement de Lens, ça nécessite des moyens, ça nécessite du secrétariat, ça nécessite un ordinateur, un local, un téléphone, une voiture pour se déplacer, des pleins d'essence. Ça a un coût. Et tout ça, chaque année, c'est raboté. Et j'ai un directeur qui est très courageux, mais à un moment donné, il pourra pas mettre en danger toute l'institution. Et la question va se poser, ça veut dire qu'on arrête? Ça veut dire que finalement, en plein boom, on se dit, ben non, on fait autre chose. Ça veut dire que les 10 années d'expérience, elles ont servi à quoi? On tourne la page, des effets de mode, on repart sur autre chose. Voilà, c'est ça, plus mon inquiétude. Sinon, sur tout le reste, moi, voilà, il n'y a pas de mauvaise mesure.
Est-ce que vous attendez quelque chose pour terminer de la restitution le 25 novembre prochain de ce Grenelle lors de la journée, précisément lors de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes?
Plusieurs choses, bien évidemment. Vous pensez bien, c'est un sujet qui me travaille depuis maintenant un long moment. La première chose, c'est par pitié, ne cassez pas l'existant. Donc regardez l'état des commissariats, regardez l'état du ministère de la Justice, regardez l'état des associations à qui vous avez demandé de faire à pas cher des choses que vous n'étiez pas capable de faire, hein, faut jamais l'oublier. C'est pas, l'État ne donne pas de l'argent, l'État et les collectivités locales, hein, là je suis en train de faire une simplification, je m'en excuse. N'ont jamais eu comme vocation de donner l'argent aux associations parce qu'elles étaient sympas. Si les associations existent, c'est qu'il y a des mandats qui appartiennent aux collectivités locales et à l'État qui sont extrêmement complexes à faire et qui nécessitent une flexibilité, une souplesse que ces instances-là n'ont presque plus. Du coup, on demande à des associations, voilà, la K9 de cœur, c'est une petite association, hein, on est entre 20 et 25 salariés, il n'est pas question, voilà, on est loin d'être un mastodonte, mais n'empêche qu'on a la qualité de nos défauts, c'est-à-dire qu'on est petit et fragile, mais très réactif, modulable, on est ok, ça nous va. Mais s'il vous plaît, donnez-nous les moyens de perdurer les choses, parce que les gens qu'on accompagne, c'est ça leur inquiétude. C'est, j'ai commencé à faire un travail là, est-ce que ça va perdurer? J'ai lié. Moi, j'ai des dames qui viennent en accueil de jour, que ce soit Stéphanie ou Christelle, les deux collègues de l'accueil de jour, elles font presque partie de l'environnement familial. Elles viennent voir Stéphanie, elles viennent des fois dire bonjour à Christelle, vous voyez? C'est pas rien, ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, ce lien-là, il compte pour eux. Si c'est ces personnes-là qui arrêtent ce lien, c'est parfait. Elles ont décidé, merci beaucoup, tac, tac. Par contre, si c'est nous qui, sous prétexte de réduction budgétaire ou de pire, parce que c'est même pas des réductions budgétaires, c'est juste qu'on maintient les mêmes sommes, comme si le coût de la vie n'augmentait pas, etc., etc., c'est à mon sens contre-productif si l'objectif c'est de lutter contre les violences faites aux femmes en général et les violences conjugales en particulier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir avoir une politique ambitieuse de perdurer l'existant, de renforcer l'existant, et bien évidemment de développer et de pallier les carences. Mais pas l'un sans l'autre. Parce que sinon, en effet, là, on risque de recommencer à nouveau comme dans un cercle et de dire, bah allez, on recommence comme si on n'avait rien appris, alors qu'il y a des acquisitions de compétences, il y a du retour d'expérience. Et sur l'arrondissement de Lens, il y a eu un travail de recherche fort qui a été fait, qui a été validé par l'État avec un guide, des pratiques, avec des apports théoriques, hein, qui ont été construits sur un travail qui a duré 3 ans, qui a mobilisé une 40aine de professionnels différents qui ont tous vraiment travaillé, réfléchi, renvoyé de l'expérience, etc., etc. Il faut que ça puisse continuer parce qu'on a énormément avancé et pour ça, on a besoin d'être soutenu, on a besoin d'être renforcé. C'est à mon avis ça le message fort qu'il faut faire là-dessus. Et la deuxième chose, c'est surtout n'allons pas vers une politique qui oppose. Parce que ça, c'est de l'argent gâché.
Eh bien, merci beaucoup, Laurent Lyotard, d'avoir répondu à toutes ces questions.
Merci à vous.
Voilà, c'est la fin de Savoir Plus consacré à Systémia et aux violences conjugales. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Pour plus d'infos sur Systémia, rendez-vous sur le site systemia-consultation.fr ou téléphonez au 09 52 63 59 19. 09 52 63 59 19. Dans quelques minutes, le Flash Info et les routes de l'accordéon. À bientôt. Tout de suite, la pub.